j'étais dans la vallée, j'étais dans les montagnes, la torpeur de la mort, les angoisses m'avaient saisi, la maladie, la pauvreté, la mort et le péché. Le lion rugissant marchait contre moi, mais j'ai eu foi, j'ai saisi par la foi, les promesses de Dieu sont oui, amen, oui, amen. La guérison, la santé, la prospérité, oui, tout, tout est en lui. Tout est en lui, j'ai saisi par la foi, j'ai vu de loin ses promesses.
Alléluia.
Je m'y suis attaché, je voyais au loin, sous la montagne. Dieu m'a dit, je ferai de toi un homme, une femme puissante, un enfant racheté, un enfant délivré. Regardons à la promesse, car nous devons fermer nos yeux naturels pour regarder à la promesse de Dieu, car sa promesse est spirituelle avant tout. Voyons la guérison qu'il nous a promise dans sa parole, par ses meurtres et sûr que nous sommes guéris. Voyons son salut qu'il nous a promis, car Dieu a tant aimé le monde que quiconque croit en lui ne périra point. Voyons en lui la prospérité. Car je ne vous ai pas appelé à être la queue, mais à être la tête. Voyons en lui le bonheur et la joie. Car voici, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Voyons en lui d'être comblé. Voici, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viens à vous. Je viens à vous. Je viens à vous. Voyons la promesse d'une vie restaurée, d'une vie spirituelle divine, en bonne santé. Voici, vous êtes le temple, le temple, le temple du Saint-Esprit, le temple de mon esprit. Et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Saisissez-vous maintenant de cette promesse. Saisissez-vous par la foi de cette promesse. Et confessez, je reçois, car j'ai foi. Je reçois, car j'ai foi. De la naissance et de la vie de Jésus vue par Marie. Commencez à imaginer la naissance de Jésus. alors qu'on va parcourir beaucoup de textes bibliques, les écouter pas seulement comme au cinéma où on oublie tout de suite ce qu'on voit, mais projetez-vous dans ces choses. Projetez-vous dans ces choses parce qu'elles sont puissantes. On va aller dans Luc, au chapitre 2. Encore pas mal de textes et après je prêcherai. Dans Luc, au chapitre 2 et au verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. La naissance de Jésus, le cadre de la naissance de Jésus, sont si beaux qu'on la représente sous tous les sapins. Et aujourd'hui, on montre à Noël Jésus dans une crèche. Parce que c'était un moment tellement particulier, tellement beau. Et il ne nous est pas dit si Marie a eu mal, si elle a mis 5 heures à accoucher, comment ça s'est passé, si elle a demandé des calmants de l'époque. Mais il nous dit simplement que le temps où Marie devait accoucher arriva. Et pour Marie et Joseph, ce soir-là, c'était l'essentiel. Le temps où Marie devait accoucher était arrivé. Et pour eux, c'était vraiment l'essentiel. Et quel moment privilégié pour Joseph et Marie ce soir-là, où leur fils, leur unique, devait naître. La naissance de leur premier-né. Pour eux, ce soir-là, peu importe s'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie, peu importe si peut-être l'odeur était désagréable, parce qu'il y avait là des animaux, il y avait là toutes sortes de choses, peu importe. Ce qui était important pour eux, c'était cette naissance, la naissance de leur premier-né. Peu importe s'il faisait froid, l'important c'était de donner naissance à leur fils, à leur premier-né. À ce moment-là, plus rien n'avait de valeur, plus rien n'était important, si ce n'est leur doux bébé, leur unique, leur premier, leur trésor. Au verset 8, il y avait donc dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Vous êtes toujours en train d'imaginer ? Les bergers, ils sont dans un champ pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Donc là, en fait, la grande joie de Joseph et Marie devait se partager au monde entier. C'était plus simplement un cadre fermé, un cadre là où il y avait Joseph et Marie qui partageaient un moment important dans leur couple, qui partageaient un moment profond. Cette soirée était merveilleuse, mais là, cette bonne nouvelle, cette joie, devait être une joie pour tout le peuple, pour le monde entier. Un sauveur est né, plus précisément le sauveur, le Christ. Aujourd'hui, dans la ville de David, au verset 11, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci pour vous sera un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et lorsque les bergers sont arrivés dans cette crèche, il n'y avait rien d'exceptionnel dans cette crèche. Il y avait là Marie, il y avait là Joseph, il y avait là des animaux, et il y avait là un bébé emmailloté. Rien d'exceptionnel à la vue. Et pourtant, ce soir-là, pour Joseph et Marie, c'était un moment exceptionnel. C'était un moment merveilleux. C'était un moment précieux. Verset 17. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'hautainement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Voyez, Marie devait se dire, voici que de mon sein est sorti un sauveur. Aujourd'hui, de mon sein est sorti le sauveur. Imaginez-vous bien Marie avec ce petit enfant, ce petit bébé. Et elle se disait, dans mon sein, aujourd'hui, de mon sein est sorti le sauveur. Cette visite ajoutait à cette soirée de la gloire. C'était déjà tellement particulier, c'était déjà tellement précieux. Mais la visite de ces bergers, ça a ajouté quelque chose de glorieux. Parce que ces bergers venaient annoncer qu'ils ont eu une vision, une multitude d'anges dans le ciel. Et ça rajoutait vraiment quelque chose de glorieux. Ils se disaient, notre bébé, notre trésor a une très grande valeur. Notre fils a une très grande valeur. À ce moment-là, Marie se remémorait la visite de l'ange. On va voir au chapitre 1 et au verset 28. Marie commençait à se remémorer la visite de l'ange. Luc 1, 28. Donc c'était avant cette naissance. Un ange visita Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite.
Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Marie se disait « Mon fils sera sur un trône. Il sera roi. Son règne n'aura pas de fin. Toute sa vie, mon fils règnera. Mon fils est un roi. Je ne peux pas me tromper, c'est un ange qui me l'a dit. Oui, mon fils règnera. » Et non seulement ce moment était beau, cette soirée-là était belle, mais voici qu'un ange lui avait parlé. Et pourtant, elle était vierge. Mais un ange lui avait parlé. Il y avait quelque chose de miraculeux, de surnaturel. Et ses bergers avaient des milliers d'anges, louaient Dieu pour cette naissance. Donc Marie et Joseph étaient là. Et vraiment, ce moment était merveilleux pour eux. C'était la plus belle des soirées de leur vie. C'était précieux. C'était vraiment précieux. Et Marie se rappelait, elle pouvait dire à son mari, au verset 36, on voit, « Tu te rappelles ? Je me souviens que un ange est venu me voir et m'a dit, « Élisabeth, ta parente, a conçu. Et elle aussi, elle est enceinte, elle est dans son sixième mois. » Et Marie devait dire, « Mais je me souviens qu'Élisabeth, ma parente, elle s'est mise à crier d'une voix forte. Elle qui est d'habitude réservée. Elle s'est mise à crier d'une voix forte et son visage, l'aspect de son visage a changé à ce moment-là. » Au verset 41. Elle est si réservée d'habitude, mais elle m'a appelée la mère de mon Seigneur. Et certainement, elle veut dire à Joseph, mais tu imagines, ma parente m'a appelée la mère de mon Seigneur. Et c'est écrit d'une voix forte, je me rappelle, tu es bénie entre toutes les femmes, Marie, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et Marie était là et devait se dire, en montrant son bébé, mais décidément, notre bébé est exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. Et Marie disait, mais tout d'un coup, j'ai senti à l'intérieur de moi des louanges monter de mon cœur. J'ai senti quelque chose monter à l'intérieur de moi. Et je me suis écrié, mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Et Marie était là en train de se rappeler dans cette soirée-là de ce qu'elle a vécu, en train de raconter ça à son mari. Ils se rappelaient tous les deux. Et elle se disait, mais certainement, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai vu cet ange. Pourquoi toi, Joseph, un ange, t'a parlé? Pourquoi le ciel entier a parlé de notre enfant? Pourquoi les myriades d'anges ont parlé à ces bergers de notre enfant? Je ne sais pas pourquoi tout cela s'est passé. Comment Dieu a pu s'abaisser jusqu'à moi, sa servante? Et Joseph, certainement, disait, oui, je me souviens. Je me souviens que tu m'as dit ces choses. Et à ce moment-là, en fait, Joseph était comme absent, tout à coup. Il réfléchissait. Il se rappelait la visite de cet ange. Certainement, il n'a pas parlé pendant un instant. Et il a repris, je me souviens. Marie, lorsque tu m'as annoncé être enceinte, je voulais rompre nos fiançailles. Effectivement, j'avais toutes les raisons de croire. Puis là, ils ont été coupés dans leur discussion. Ils ont entendu des rires. Ils ont entendu des gens crier derrière la porte. Ils ont entendu des gens crier, se réjouir. Et à ce moment, Joseph fut coupé dans ce qu'il disait. Effectivement, ces visiteurs étaient des mages venus de Jérusalem. Regardez dans Matthieu 2. Ces mages venaient de Jérusalem, et les mages avaient l'habitude à l'époque d'observer les étoiles, et ils pensèrent en fait avoir vu l'étoile qui annonçait la venue de Christ. Dans Matthieu 2.9, il est parlé des mages, Matthieu 2.9, après avoir entendu le roi, ils avaient vu Hérode et ils parlaient avec lui, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et tout cela dépassait les pensées de Joseph et Marie dans cette soirée-là. Ils n'imaginaient quand même pas cela possible. Même après avoir vu des anges, même si Marie a vu un ange, même si Joseph a vu un ange, ils n'imaginaient pas que des mages puissent être là, en train d'adorer leur fils, leur bébé, en train de leur offrir, lui offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vraiment, c'était spectaculaire. Pour Joseph et Marie, à l'intérieur d'eux, ça bouillait. Marie, certainement, elle tremblait intérieurement. Elle les dépassait complètement. Et Joseph pensait certainement, je n'ai jamais vu autant d'or si près de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon fils serait vraiment un roi. Mon fils est vraiment un roi. Et Marie regardait les pots de myrrhe et d'encens. et réalisait que même dans ses plus beaux rêves de jeune fille, elle n'aurait jamais imaginé une naissance aussi belle. Elle n'aurait jamais imaginé une naissance aussi belle. Voici qu'on m'offre à mon bébé. De l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ça sentait bon pour Marie tout à coup. Cette soirée, elle était enveloppée dans une atmosphère d'amour, dans une atmosphère si précieuse. L'heure se faisait tardive, les mages et les bergers qui étaient encore là sortirent. Donc Joseph et Marie étaient seuls. Marie, certainement, elle s'endormait dans la chaleur de ses pensées, de ces moments merveilleux. Puis Joseph a repris sa discussion. « J'avais toutes les raisons de croire que tu m'as menti. Mais alors que je réfléchissais à ce que j'allais faire de toi, je pense m'être endormi. Je vis un ange majestueux. » Regardez Matthieu 1:21. Joseph devait regarder cet or et dire à Marie, « Regarde, Marie, tout cet or. Regarde, ce doux bébé sauvera notre peuple de ses péchés. » Comme il y pensait, verset 20, Matthieu 1, verset 20, donc il pensait à ce qu'il allait faire de Marie parce qu'il se sentait trompé. « Voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Marie, notre fils, notre bébé, va sauver le peuple de Jérusalem de ses péchés. Notre unique va sauver le peuple de ses péchés. Cette soirée resterait inoubliable à tout jamais. Quelques jours plus tard, Joseph fit un songe. Dans Matthieu 2, au verset 13, cette soirée était donc passée. La naissance avait eu lieu, ils avaient été visités par les mages, ils avaient été visités par les bergers. Et là, on était un autre jour, et en fait, Joseph, au chapitre 2, au verset 13, a eu un songe. Après le départ donc des mages, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Donc en pleine nuit, Joseph prit Marie et l'enfant et s'enfuit en Égypte. Joseph, je pense qu'au début, il a eu peur de partager la vision qu'il avait eue. Mais certainement Marie, voyant qu'il la prenait de nuit et qu'il voulait s'enfuir, commençait certainement à lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous fais enfuir ?» Et là, Joseph, qui voulait cacher cela, a dit, « Mais Marie, voici le songe que j'ai fait. On cherche à tuer notre enfant. » Et Marie, dans le cœur de Marie, à l'intérieur d'elle, il commençait à avoir des angoisses. Il commençait à avoir une peur. « Quoi, mon roi, notre bébé, on en veut à sa vie. On veut le tuer. On veut le détruire. » Et alors, ils restèrent en Égypte de longs mois. Ça, c'est la naissance de Jésus. Ça, c'est les débuts de Jésus. Pendant plusieurs mois, ils sont restés en Égypte. Et Joseph et Marie apprirent qu'Hérode avait fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Tous les enfants de moins de 2 ans sont morts. Et Marie était dans l'angoisse. Parfois, certainement, elle se réveillait en pleine nuit, en angoisse. Elle restait bloquée sur des pensées. Elle imaginait tous les enfants morts. Elle réfléchissait à qu'on cherchait son fils pour le tuer. On cherchait son bébé pour le tuer. Ils avaient beau connaître leur bébé depuis quelques semaines seulement, mais pour eux, c'est comme s'ils le connaissaient depuis toujours. Et on en voulait à tout ce qu'ils avaient. On en voulait à leur précieux, à leur trésor. Quelque temps plus tard, Joseph fit un autre songe, dans Matthieu 2, 19. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et entra dans le pays d'Israël. Hérode était donc mort. Il s'empressa de partager cette nouvelle, cette bonne nouvelle qu'il avait vue en vision. « Voici ceux qui en voulaient à la vie de notre enfant sont tous morts. » Mais quand Joseph a appris que le fils d'Hérode régnait à sa place, Marie s'est dit « Mais c'est pas possible, ça recommence. » Il y avait une espérance, il y avait un espoir, mais ça recommence. Le fils d'Hérode règne à sa place et on va encore en vouloir à mon fils. Donc ils se sont reculés, ils ont été dans un endroit, en Galilée, à Nazareth plus précisément, et Marie certainement devait se demander « Mais quand ça va finir ? Quand est-ce que ça va finir ? Quand est-ce qu'on va arrêter d'en vouloir à la vie de notre enfant ?» Et ils sont arrivés à Nazareth. Nazareth, la naissance de Jésus, cette merveilleuse nuit étoilée, était déjà loin maintenant. Cette soirée inoubliable était déjà loin maintenant, c'était passé. Cette belle naissance, ce moment tellement chaleureux, c'était passé. Ça faisait déjà de longs mois, et c'était passé. Et Jésus avait déjà quelques années, et commençait à devenir un petit garçon. Vous voyez à ce moment-là les paroles des anges, les paroles des mages, les paroles d'Élisabeth, les paroles de Zacharie, les paroles de Siméon n'avaient plus le même écho dans leur cœur. Ces paroles étaient déjà lointaines pour eux. Et pour Joseph, Jésus était devenu un beau garçon, gentil, serviable, mais pas un roi. Pour Marie, sa mère, Jésus était son unique, quoiqu'il ne fut plus leur seul fils. Il avait maintenant des frères, des sœurs. Mais Marie aimait Jésus. Marie aimait Jésus. Et cette année-là, environ 12 ans plus tard, Jésus, vous allez lire dans Luc, au chapitre 2, au verset 41, Tellement de nuits étaient passées, tellement de mois, tellement d'années, tellement d'angoisses, tellement de questions pour Marie et Joseph. Et dans Luc 2, 41, ses parents allaient chaque année à Jérusalem, donc Marie et Joseph, pour la fête de la Pâque. Tous les ans, ils y allaient, donc à cette fête. C'était la tradition. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, parce qu'ils voyageaient par centaines à cette époque-là, ils firent une journée de marche, de chemin, et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Vous voyez, Marie et Joseph étaient là dans ce voyage. Et ce voyage, je pense vraiment que cette année-là, ce voyage avait un goût amer pour Marie. Elle se rappelait du voyage en Égypte. Elle se rappelait de la fuite en Égypte. Elle se rappelait avoir fait un long voyage pour fuir à ceux qui voulaient tuer son fils. Et je pense que pour Marie, ce voyage-là était particulier. Certes, il voyageait tous les ans, mais ce voyage-là, ça laissait, il y avait quelque chose d'amer en Marie. Et elle commençait à réfléchir, parce qu'elle se retrouvait dans une même situation, à voyager. Elle commençait à réfléchir, je me souviens qu'on a voyagé aussi, parce qu'on en voulait à mon fils. Et alors là, elle a commencé à regarder autour d'elle, mais où est justement Jésus? Où est notre fils? Où est notre enfant? Et son enfant n'était pas là. Ça faisait déjà 24 heures qu'il marchait, et Jésus n'était pas là. Alors cette angoisse a commencé à monter en elle. Et commençait à se questionner, et commençait à dire, mais où est Jésus? Alors ils ont regardé, ils ont fouillé dans la foule, et personne. Dans la foule qui allait à Bethléem, personne. Personne. Jésus n'était pas là. Personne n'avait vu Jésus. Il ne l'avait pas vu depuis 24 heures. Et pendant 3 jours, 3 longs jours, 72 heures, beaucoup de minutes, il ne trouvait pas Jésus. Et certainement, les souvenirs de Hérode qui avait fait tuer les enfants revenaient au cœur de Marie. Elle était dans l'angoisse. Elle se posait des questions. Et certainement, elle avait du mal à dormir ce soir-là. 72 heures où ils ne voyaient pas leur fils. 4 jours en tout où ils n'ont pas vu Jésus. 4 jours d'angoisse. Joseph, certainement moins démonstratif. Lui ne disait rien. Il repensait pourtant chacun de leur côté à cette fameuse nuit étoilée où Jésus est né. Il repensait à cette naissance si particulière, si belle. Mais Jésus n'était pas là. Et alors, ils le retrouvaient. Dans Luc 2, 46, au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et certainement, Marie s'est mise en colère, parce qu'elle avait peur. Ça s'est transformé en colère, elle a dit à Jésus, mais pourquoi nous as-tu fait cela? Qu'est-ce que tu nous as fait? Et Jésus a répondu, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Jésus était toujours vivant. On ne l'avait pas volé. On ne l'avait pas tué. Et pour ses parents, ce jour-là, c'est comme si Jésus était mort. Leur unique, leur fils, leur disait, « Pourquoi me cherchez-vous à 12 ans? Voici, je dois m'occuper des affaires de mon père. » Et Joseph devait dire, « Mais je suis son père. C'est moi son père. Oui, ce n'est pas moi qui l'ai conçu, mais c'est moi son père. » Et ce jour-là, dans leur cœur, c'est comme si Jésus était mort. Ils ne reconnaissaient pas la vision qu'ils s'étaient faite de leur doux enfant. Ils avaient eu une promesse, mais ils pensaient que Jésus allait monter comme un roi, en famille. Ils ne reconnaissaient pas la promesse qui leur avait été faite. Et alors ils sont rentrés à Nazareth. Et là, des années passaient. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps ont passé depuis cette nuit étoilée. Beaucoup de temps ont passé depuis la visite de ces anges. Plus rien depuis. Plus de songes. Plus de visions. Comme le désert. Dieu qui ne parle plus. Il a donné une promesse, mais là, il ne parle plus. Dieu se tait. Notre fils qui devait être un roi pendant 18 ans, il devait dire, mais Jésus n'est pas un roi. Notre fils a maintenant bientôt 30 ans, et il n'est pas un roi. Toujours pas un roi. Et alors ils commençaient à douter des paroles qu'ils avaient reçues. Ils commençaient à douter, ils se sont dit, mais non, c'est une fabulation. C'est mage. C'est pas des anges qu'ils ont vus. C'est mage, c'est pas l'étoile qui annonçait la venue de Jésus. Non, ils se sont trompés. Ils commençaient à réfléchir aux bergers, ils se sont dit, non, non, c'est une fabulation, ils ont menti. Et Joseph lui-même, il devait douter même de l'ange qu'il a vu. Marie devait douter aussi de la visite de l'ange qu'elle a vu. Et il commençait à remettre en question ce qu'ils ont su. Il se disait, peut-être on n'a pas fait ce qu'il fallait. Peut-être on s'est trompé. Peut-être on n'a pas été dans la bonne vie. Peut-être on n'a pas fait. Non, la promesse était toujours là. La promesse était toujours là et elle allait s'accomplir. Mais dans le cœur de Joseph et Marie, il se posait des questions. Il n'était pas roi, il avait 30 ans. Puis Marie a été mise au courant que Jésus s'était fait faire baptiser par Jean-Baptiste, cet homme étrange. Un homme qui s'habillait en peau de bête, qui mangeait des sauterelles, qui était là près du désert, près du Jourdain, qui baptisait. Et Marie a timé au courant que son fils Jésus s'est fait baptiser par lui et s'est dit, mais qu'est-ce que fait mon fils? Pourquoi il est allé vers cet homme-là? Pourquoi il s'est fait baptiser? Certainement, il réfléchissait le soir. En mangeant, ils se parlaient. Marie parlait à Joseph. Joseph parlait à Marie. Tiens, Jésus, aujourd'hui, notre fils s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et alors, Marie a su que Jésus était parti dans le désert. Et les jours ont passé. Un jour, deux jours sans voir Jésus, trois jours sans voir Jésus, quatre jours, cinq jours, une semaine, deux semaines, 30 jours, un mois entier sans voir leur fils. Un mois. Puis 40 jours. 40 jours sans voir Jésus. Et Marie se posait des questions. Je n'ai pas vu mon fils. 40 jours précisément. Elle n'était pas habituée à cela. Mais Jésus revint du désert et fut un homme transformé. Elle sut qu'il entra dans une synagogue. Alors on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et un peu plus loin dans Luc 4, au verset 18. On est venu dire à Marie, écoute, ton fils est venu dans une synagogue. On lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Voici ce qu'il a lu. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Si la promesse, si la prophétie, si la parole tarde à venir, attends-la. Attends-la. Reste à ta place. Ne te décourage pas, mais attends-la. Attends-la. Voici le Père m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui, c'était dur dans ce désert. Dans ce désert de 40 jours pour Marie, pour Joseph. 40 jours sans voir leur fils, c'était dur. C'était dur, mais c'était utile. Et parfois, les silences de Dieu sont utiles pour nous tous. Les silences de Dieu sont utiles, mais la promesse de Dieu est éternelle. Pour Dieu, pas besoin de nous dire tous les jours ce à quoi on est appelé. Dieu parle et sa parole est tellement puissante. Elle peut régner en nous toute notre vie. Donc Jésus a dit cela pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et il l'a lu devant tous. Et cette parole de Jésus commençait à faire le tour de la ville car les nouvelles allaient très vite dans ce temps-là. C'était plus rapide que la DSL. On se parlait, un voisin parlait à l'autre, on se parlait au marché. Regardez ce qu'a dit Jésus, regardez ce qu'a dit Jésus. Il est resté 40 jours dans le désert. Il a dit que Dieu l'avait oint pour proclamer une année, une bonne nouvelle aux pauvres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner de l'argent aux pauvres pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est médecin, psychologue. Qu'est-ce que va faire Jésus? Il va faire comme Jean-Baptiste, peut-être? Et ça fait le tour de la ville. Et Marie fut mise au courant. Et je pense qu'elle éprouvait une joie profonde. Mon fils va sûrement devenir un roi. Puisqu'il l'a dit. Mon fils va être élevé. Parce qu'il a dit aujourd'hui cette parole s'accomplit. Aujourd'hui cette parole vient à la réalité. Et pendant plus de 3 ans, Marie entendait des nouvelles de Jésus. Par exemple, elle a entendu qu'un jour Jésus est arrivé sur un âne à Jérusalem. Et là, il y avait une foule. Il y avait une foule de gens qui commençaient à louer Jésus. Et Jésus a dit si. Alors que les pharisiens lui disaient, mais fais les taire. Et Jésus leur a dit, mais s'ils ne me louent pas, les pierres crieront. Vous savez, du roc de votre vie, de la sécheresse de votre vie, Dieu peut faire couler de l'eau. Dieu peut faire couler la vie. Du roc de votre vie, de votre cœur dur, de la sécheresse de votre vie spirituelle, Dieu peut faire couler un fleuve d'eau vive. Après la brume, après l'épais brouillard le matin, voici que la rosée vient. Après le brouillard de nos vies, après la brume de nos vies, après les questions de nos vies, voici que la rosée vient. Et la rosée viendra sur vous. Elle viendra sur vous certainement. Parce qu'avec l'épreuve, il nous donnera le moyen d'en sortir. Et Marie, elle a été mise au courant que Jésus était là sur un âne, il est allé à Jérusalem. Et là, on l'a accueilli comme un roi. Et Marie se disait, voici, la prophétie, la promesse de l'ange devient réalité. Mon fils est un roi. Elle a appelé certainement ses amis, ils ont mangé ensemble, ils ont bu un thé. Elle disait, mais regardez, mes amis, elle a appelé Élisabeth. Mon fils est un roi. Et toute la ville parlait de Jésus, de cette entrée triomphale. Mon fils est un roi. Oh oui, cette parole vient. Mon fils est un roi. Rappelez-vous, lorsqu'ils ont pu retourner en Galilée, parce que Hérode était mort, là il y a eu un espoir pour Marie. C'est bon, tout le monde. Tous les gens sont morts. Tous ceux qui en voulaient à notre enfant sont morts. Mais elle a su que le fils d'Hérode régnait à sa place. Et alors tout d'un coup, elle a baissé les bras à nouveau. Il y avait quand même espoir pour elle, parce que tous étaient morts. Tous ceux qui en voulaient à la vie de son fils étaient morts. Mais là, le fils d'Hérode régnait. Et là, elle a été découragée, elle a été abattue. Et les années jusqu'à 30 ans de Jésus, Marie était comme abattue face à cette promesse, face à cette prophétie. Pendant de longs mois, elle se disait, mais Est-ce que Jésus va rentrer aujourd'hui? Est-ce que mon fils va rentrer aujourd'hui? Et là, elle était là, et enfin, Jésus, son fils, était roi. Et voyait les miracles de Jésus. Elle entendait Jésus. Elle entendait les paroles de Jésus. Certainement, elle se disait, mais oui, c'est vrai. Ce n'est pas vraiment mon fils. C'est le fils de Dieu. Et l'on disait de Jésus, n'est-ce pas Jésus, le fils de Marie? Comment ces miracles peuvent-ils se faire par ses mains? Et les évangiles ne nous parlent plus de Marie jusqu'à ce fameux jour. On ne fait mention de Marie qu'une seule fois, après que Jésus ait dit à Marie, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père à 12 ans? Alors qu'un jour où Marie cherchait à parler à Jésus, Jésus dit dans Matthieu 12, 48, Marie cherchait à parler à Jésus, mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Pour Marie, c'était dur. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Marie se rappelait, mais c'est vrai, il m'a dit à 12 ans, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Joseph se souvenait aussi. Et Marie se disait, c'est vrai, ce fils ne veut pas me parler. Il ne peut pas me parler, là. Il est occupé. Mais il va devenir roi. C'est un roi, il se prépare, c'est normal. Il est loin, c'est normal. Il est loin de moi, c'est normal, il se prépare à être roi. Puis on parle de Marie une dernière fois dans les évangiles. Une dernière fois. C'est la toute dernière fois où on parle de Marie dans les évangiles. Et on va lire dans Jean, au chapitre 19, au verset 25. Marie se remémorait avec Joseph cette belle naissance. Leur bébé si beau, emmailloté, qu'on représente aujourd'hui tellement, parce que c'est tellement beau, tellement précieux ce jour-là, tellement précieux cette soirée-là. Marie, Joseph se remémoraient. Puis dans Jean 19, 25, on lit, près de la croix se tenait sa mère, Marie. Près de la croix se tenait Marie, sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et debout auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Et dès cette heure-là, la disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et l'on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Comment se fait-il que Jésus soit là sur cette croix? Pour Marie, mais qu'est-ce que fait mon fils là? Qu'est-ce que fait mon fils là, pendu sur cette croix, crucifié? Mais qu'est-ce que Jésus fait là? Il était censé être un roi. Il était censé être un roi. Et là, elle était complètement démolie. Elle était complètement détruite. Toutes les promesses qu'elle avait pu entendre, elle était complètement détruite. C'était trop. C'était beaucoup trop. Son fils, qui devait être un roi, il était là crucifié. Comment ça se fait que Jésus ait pu dire « j'ai soif » Lui qui s'occupait des gens, qui les nourrissait, il a dit « j'ai soif ». Mais Marie se demandait, elle se posait des questions. Mais comment a-t-on pu faire boire du vinaigre à mon fils, à Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est la promesse? Où est l'accomplissement? Où est la royauté de mon fils? Mon fils devait être un roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est là, pendu sur cette croix, comme un meurtrier, comme un brigand? Et le monde diabolique était en effervescence autour de la croix. Le diable se déchaînait et venait dire à Marie que Jésus avait tout raté. Venait dire à Marie, Marie, tu as tout raté. Tu as raté ton éducation. Tu as raté tout ce que tu as fait, tu l'as raté. Voici ton fils là, il est pendu. Parce que le diable est un accusateur. C'est l'accusateur des frères. Le diable est celui qui accuse. Et là, il rôdait comme un lion. Il rôdait autour de la croix. Et venait dire aux disciples que Jésus aimait, tu es un raté. C'est à cause de toi qu'il est mort. C'est à cause de toi qu'il est pendu. C'est à cause de toi, Jean. Et à tous les disciples également, se disaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que j'ai fait? Certains se posaient des questions, mais finalement, est-ce que Jésus n'est plus roi? Jésus n'est pas roi? Peut-être certains se disaient, mais Jésus nous a menti. Tellement de questions, et le monde diabolique était là en effervescence autour de la croix. Venez dire à Joseph, tu es un raté. Tu as raté ta vie. Voici ton fils devait être un roi, il est là sur la croix. Le diable devait dire à Marie, mais voilà, prends une corde, va te pendre. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu as perdu ton unique, ton précieux. Celui qui t'était précieux, tu l'as perdu. Va te pendre. Mets fin à ta vie. On va lire dans Ésaïe 53. Au verset 2. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance. Au verset 4, c'est pourquoi. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme fini, comme un échec, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes. Oui, Jésus était sur la croix. Il a été transpercé à cause de nos crimes. Mes amis, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. La pauvreté qui devait être la vôtre est tombée sur lui. La maladie qui devait tomber sur vous est tombée sur lui. L'échec qui devait tomber sur vous est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu n'as plus besoin de prendre la maladie. Tu n'as plus besoin de vivre dans l'échec. Tu n'as plus besoin de vivre sans espoir. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Afin que nous puissions vivre en paix. Et avec la paix vient la joie. Avec la joie vient la sécurité. Avec la sécurité vient l'espérance. Avec l'espérance vient l'amour. Avec l'amour vient la foi. Avec la foi viennent les paroles appropriées. Avec les paroles appropriées vient la sagesse. Avec la sagesse vient la réussite. Avec la réussite vient l'espoir. Avec l'espoir vient la guérison. Avec la guérison vient des gens transformés, puissamment fortifiés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors ne méprisez pas son sacrifice. Ne méprisez pas ses meurtrissures parce qu'il a dit « Par mes meurtrissures, vous avez été guéris. » Ne méprisez pas cette vie donnée pour vous. Ne méprisez pas celui qui a dit « Voici, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Ne le méprisez pas en vous inquiétant. Ne le méprisez pas avec vos craintes et vos doutes. Ne méprisez pas Jésus. Ne méprisez pas sa croix. Ne méprisez pas ses meurtrissures. Ne méprisez pas qui il est. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Moi, je pense que. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité. Afin que tu n'aies pas besoin d'être maltraité. Il a été humilié afin que tu n'aies pas besoin de porter ton humiliation. La chair ne sert de rien. Mais c'est notre esprit qui vivifie. Et si nous sommes attaqués, si nous sommes meurtris, nous devons déposer ces choses au pied du Seigneur parce qu'il les a portées pour nous. Il les a déjà portées pour nous. Toutes les difficultés, tous les problèmes. Voici qu'il n'a pas ouvert la bouche. Afin que toi non plus, tu n'aies pas à te plaindre, tu n'aies pas à pleurer, tu n'aies pas à crier, tu n'aies pas à être en détresse. Il n'a pas ouvert la bouche semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. L'agneau qui va à la boucherie, il est donné pour la nourriture des gens qui vont l'acheter. Et il est ta nourriture. Il est ton sacrifice. Jésus est ta nourriture. Jésus est ta nourriture. Voici, vous ne vivrez pas de pain seulement, mais de ma nourriture. Jésus est aujourd'hui notre nourriture. Il est l'agneau parfait. Il est le sacrifice parfait. L'agneau immolé. Il est notre nourriture. Semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Jésus. Ce précieux Jésus a été crucifié afin que nous ne vivions plus dans la détresse. Mes amis, il y a un espoir. Du roc peut sortir l'eau. Des ténèbres peuvent sortir la lumière. De votre cœur dur peut sortir un cœur de paix. Là où il y a la haine, Dieu le transforme en amour. Là où il y a l'injustice, Dieu amène sa justice. Là où il y a l'insécurité, la dépression, Dieu amène sa sécurité et sa paix, parce qu'il est le sauveur du monde. Voici, je vous donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne gratuitement. Non, pas besoin de prier. Non, pas besoin de marcher. Non, pas besoin d'être dépressif. Il nous donne gratuitement. Gratuitement à tous. L'eau de la vie. Il transforme vos vallées. Il transforme vos déserts.
en prairie. Il transforme vos ennemis en marchepieds. Il transforme vos difficultés en tremplin vers votre destinée divine. Il transforme tout ce qui est mal dans votre vie en bonne chose. Il transforme toutes les situations. Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas pour dire de belles choses. Ce n'est pas pour nous donner une fausse espérance. Non, mes amis, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Oui, il est l'alpha, il est l'oméga. Oui, tout en lui est oui et amen, dit la parole. Tout en lui est oui et amen. Tout en lui est victoire. Tout en lui est refuge. Mes amis, nous avons un refuge sur lequel nous appuyer. Vous savez ce que c'est un refuge? Dans un refuge, il y a de l'eau. Dans un refuge, il y a de la nourriture. Dans un refuge, c'est là où on va quand vous êtes fatigué. Quand on est fatigué, vous êtes fatigué, il est notre refuge. Voici l'Éternel, mon berger. Il est votre berger. Pourquoi se soucier des finances? Mais l'or n'est rien. L'or n'est rien. L'argent n'est rien. 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 Nous sommes un esprit. Comment achèterez-vous la paix? Comment achèterez-vous la joie? Vous ne pourrez pas l'acheter. Mais Jésus donne gratuitement. Gratuitement. Il est l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Il est oui et amen. En lui, il n'y a pas de ténèbres. En lui, tout nous est donné gratuitement. Voici, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Oui, mais mon problème, non. Tout pleinement. Tout pleinement. Voici, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Mais je ne sens pas sa présence. Mais tous les jours, il est là. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance à nouveau pour vous. Il y a de l'espérance. Il y a de l'eau dans le désert. Il y a une source dans le désert. Voici, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Car je ne veux pas que vous soyez dans le malheur. Je ne veux pas que vous soyez dans la honte. Je ne veux pas que vous soyez dans la tristesse. Je ne veux pas que vous soyez dans le manque. Voici, je me suis donné pleinement pour vous. J'ai été crucifié à ma droite, sur ma main droite, sur ma main gauche, sur mon pied droit, sur mon pied gauche, pleinement, j'ai été crucifié. Voici, j'ai été fouetté. Voici, on m'a mis une couronne sur la tête, parce que de ma tête sortait l'intelligence. De ma tête sortaient les pensées pour vous, mais de ma tête, on m'a mis une épine. Et alors que le sang coulait, toutes ces pensées pouvaient devenir réalité. Voici que le sang coulait de mon corps, mais ces meurtrissures prenaient effet dans vos vies. Ces meurtrissures devenaient vivantes. Mon sang devenait vivant pour vous. Je me suis donné entier, entièrement à vous, afin que vous ne soyez plus dans la dépression. Afin que vous ne soyez plus dans les questions, dans les doutes, dans l'incrédulité, dans l'incertitude, dans la dépression, sous les pressions diaboliques. Je me donne entièrement à vous. Et son sang a coulé, son visage n'était plus celui de l'homme. Parce que la chair ne sert de rien. Tout disparaîtra. Toute chose disparaîtra. On peut vous couper la main, on peut vous couper les jambes, mais vous serez toujours là. Et Christ, même s'il était semblable à un agneau, même s'il ne ressemblait plus à un homme, il était défiguré. On l'avait fouetté, 40 coups moins 1. On l'avait fouetté, injurié, on l'avait frappé. La Bible dit qu'on lui a donné des gifles pour se moquer de lui en disant « Vas-y, prophétise, dis qui t'a frappé !» Il a fait ça afin que tu vives une vie précieuse. Et voici, Jésus a dit, voici une année de grâce. Une année de grâce du Seigneur. Et mes amis, je prophétise pour quiconque croit aujourd'hui. Voici une année de grâce vient pour vous. Une année de grâce. Voici, je vous donne 365 jours de grâce. Et dans un an, vous aurez à nouveau la possibilité de prendre cette année de grâce. Mais à quiconque croit au diable recevra le salaire du diable. Mais quiconque croit en moi, en Jésus, recevra mon salaire. Voici, je vous donne mon salaire. Je vous donne tout pleinement. Je vous donne tout gratuitement. Voici, j'ai porté votre plaie. J'ai porté vos meurtrissures. J'ai tout porté. Sur la croix, mon ami, il a tout porté. Il a tout porté. Il a tout porté pour toi. Et la toute dernière fois où l'on parle de Marie dans la Bible, c'est dans Actes 1, 14. Thank you.
jours qui ont suivi la mort de Jésus, les 3 jours, Marie, je pense qu'elle n'est pas sortie de chez elle. Elle pleurait amèrement. Elle pleurait amèrement. Elle frappait le sol. Elle n'en pouvait plus. Elle ne pouvait plus faire à manger. Elle ne pouvait plus manger. Mon fils est mort. Elle n'a pas eu de vision. Mon fils est mort. Et quand tout paraît mort, il y a un espoir. Dans Actes 1.14, tous d'un commun accord persévérèrent à la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Marie était là. Marie était là. Parce que Jésus était ressuscité. Elle avait une nouvelle joie dans son cœur. Oh oui, elle en avait vu des années difficiles. Elle en avait vu des mois difficiles. Mais si la prophétie tarde, si la parole tarde, si la promesse tarde, attends-la. Car aucune parole de Dieu ne revient sans avoir accompli son effet. Elle avait une nouvelle promesse, voici je viens vers vous. Je ne vous laisserai pas seul, mais vous recevrez une puissance. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez utile. Vous serez utile. Et voici une nouvelle espérance est née en elle. Je vais être utile. Et Jésus transforme les vallées en plaines, les déserts en prairies, la tristesse en joie, les larmes en rire, le malheur en bonheur. Il a promis d'être avec nous, il a promis d'être notre paix et d'avoir des projets de paix. Il est le prince de la paix. Ce matin, faites-lui confiance et il agira au temps convenable. Faites-lui confiance, je vous en prie. Il est près de vous, il est tout proche de vous. Précieux Jésus, précieux Sauveur, mon amour, mon espérance, ma joie, il est tout pour moi. Il est à côté de nous, il est là en ce moment. Il est présent. Il est notre espoir. Il est tout pour nous. Jésus a porté nos maladies. Il a porté toutes choses pour nous. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus. Précieux Seigneur. Marie avait une nouvelle espérance. Elle avait une nouvelle espérance. Vous recevez une puissance. Marie était là. Elle avait eu des difficultés. Elle en avait eu des questions. Elle en avait eu des doutes. Elle en avait eu de l'incertitude. Mais Marie était présente. Avec les premiers apôtres. Et elle a été remplie du Saint-Esprit.